يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل.
Islam et nous, une émission religieuse qui illumine les consciences et diffuse la voix de l'islam. Islam et nous, c'est tous les vendredis, entre 21h30 et 22h, sur les antennes de la Sierra TV Littoral. Islam et nous, une présentation d'Ousmane Souleymane, tous les vendredis, à partir de 21h30, sur les ondes de la 91.3 Sierra TV Littoral.
Assalamu alaikum, chers auditeurs et chères auditrices de la 91.3. Bienvenue à votre émission hebdomadaire Islam et nous. Nous sommes en présence du cheikh Salih. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Et soyez la bienvenue.
Merci, merci. Merci à vous, merci à tous les auditeurs.
Cheikh, nous savons très bien que la mort est une évidence pour tout le monde. Et ce soir, notre sujet portera sur le deuil. Comment faire le deuil?
Oui, là, c'est une réalité. La mort est une évidence pour tout le monde. Et comment faire le deuil? Ça, c'est un long dossier. C'est un long dossier, comme je viens de dire. Parce que nous allons essayer d'aller et de condenser. Comment est-ce que cela se passait? Parce que qui dit deuil dit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. C'est-à-dire, on constate que dans la communauté musulmane, il y a plusieurs manières de faire le deuil, peut-être qui vont à l'encontre de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'on décédait, ou bien commençons même quand l'on est malade, parce qu'il est prévu que quand l'on est malade, alors on lui rend visite, et ça fait partie des droits du musulman envers son frère musulman. Et l'objectif de la visite du malade consiste à prier pour lui et à l'orienter ou à le préparer à traverser pour l'autre monde en disant le kalimat shahada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ce qui garantit à la personne là l'entrée au paradis comme le hadith le dit. Maintenant, après le décès, s'il arrivait qu'un musulman ou une musulmane décède, alors la première des choses à faire, après l'avoir lavé et habillé comme l'islam a prévu, il faut faire la salat janaza. La salat janaza.
Mais, chef, lorsque vous parlez du lavage, ce n'est que les hommes qui lavent le corps ou bien même les femmes peuvent laver?
Oui, bon, les hommes lavent, les hommes doivent laver les hommes. Et les femmes doivent laver les femmes. Vous savez que la nudité reste sacrée, mort comme vivant. La nudité d'une personne reste un secret, une intimité. Donc même si les morts, on doit toujours respecter. Donc l'homme doit laver l'homme et la femme doit laver la femme. Sauf dans les cas où l'homme peut laver sa femme et l'épouse peut laver son mari. Naam. Donc je disais donc après dans la janaza, qui est la prière mortuaire. Cette prière qui est quatre takbirat sur la personne qui est décédée. Comment ça se passe la prière de janaza? C'est-à-dire que après avoir lavé et habillé le mort, comme nous avons dit, on va le coucher horizontalement dans le sens de la qibla. Ça veut dire la qibla devant nous et le mort est couché latéralement. Ça veut dire que l'imam va se placer dans le cas de la femme au milieu et dans le cas de l'homme au niveau des épaules. Alors, il va faire le premier Allahu Akbar où il va lire la Fatiha, le deuxième Allahu Akbar où il va lire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salat Ibrahimiya, et le troisième takbira, il va lire le doua concernant le mort spécialement, ou le défunt spécialement. Et le quatrième takbira, il va lire le doua concernant les morts, les musulmans. Et ça, c'est dans ce doua, l'imam et les fidèles ont la tâche de lire. C'est-à-dire que chacun doit apprendre à le faire et chacun doit lire, mais sauf que c'est l'imam qui fait la takbira et tout le monde le suit. C'est une prière qui n'a pas de recours ni de sujoud, c'est juste la station debout et on appelle ça prière parce que tout le monde est aligné derrière un imam qui fait et on le suit.
Elle se fait à voix
basse elle finit avec avec un salam. Et les takbirats peuvent aller de 4, 5 jusqu'à 7, même 9 dans certains riwayat des hadiths de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc il n'y a pas de version avec trois
takbirat. Non, il n'y a pas de version avec trois takbirat. Akallu shay arba takbirat.
Et les femmes sont aussi appelées à venir.
Les femmes sont appelées à prier dans la prière, à participer dans la prière de janaza, vu que c'est une invocation. C'est une invocation. Et si c'est une invocation, les invocations ne sont pas le propre des hommes seulement. C'est aussi une tâche pour les femmes. Parce que l'homme va prier pour la femme. Comment est-ce que la femme ne doit pas prier pour les hommes? Il est même demandé que non seulement les femmes doivent prier, assister à la prière de janaza, ils doivent faire le rang derrière le rang des hommes. Il faudrait même que celui dont son mari est décédé, qu'elle prenne son courage de participer à la prière de janaza, parce que c'est le moment ultime pour elle de prier pour son mari. Et les enfants, ils doivent prendre part, filles comme garçon, car c'est leur devoir de prier pour leur papa, ainsi que la communauté musulmane.
Et y a-t-il un nombre de rangs pour pouvoir faire une janaza?
Trois rangs, cinq rangs.
Normalement, pas les trois rangs.
Afdal, c'est que le rang soit impair.
Impair, ok.
Alors, nous continuons donc en disant que, après la salat janaza, alors nous allons aller à l'enterrement. Allons enterrer le musulman. La meilleure manière d'enterrer, c'est enterrer dans le lahd, la chambrette. Si le terrain n'est pas approprié pour ressortir la chambrette dans la tombe, alors on va faire ce qu'on appelle le tombeau au milieu là. Alors après l'enterrement, le musulman étant donc enterré, comme vous connaissez, alors les musulmans vont donc prier pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour le défunt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'enterrement, avait l'habitude de dire « Istanfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al » Demandez le pardon d'Allah en faveur de votre frère, car bientôt, mon car inakir vont commencer à l'interroger par rapport aux trois règles fondamentales que vous connaissez. « Ma rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka » Donc, après l'enterrement, chaque musulman fait donc une invocation individuelle. Ici, l'imam ne dirige plus les invocations, mais chaque musulman fait son invocation comme il le veut et comme il le peut, et c'est comme ça. Ça se passe individuellement et non en jama'a, comme ça se passe souvent dans nos villages, où c'est l'imam encore qui ordonne la salat sur le prophète, et les stigfarat, et les kulhu Allah, les ayat al-kursi. Tout ça, ça n'existe pas dans la sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
Et tout ça se fait toujours au cimetière ou bien au cimetière?
Non, ça, nous sommes au niveau du cimetière. Nous sommes au niveau du cimetière à l'enterrement. Chaque musulman va donc prier individuellement les doigts qu'il connaît. Au profit des morts, Allahumma anfirhum warhamhum wa thabbithum. Ou bien Allahumma anfirhum warhamhum wa thabbithum. Les trois paroles s'y rassemblent tout ce que vous voulez. Allah anfirhum, pardonne-le, warhamhum, et soit miséricordieux envers lui. Wa thabbithum, et renforce-le à répondre aux questions qui lui seront posées. Quand chacun a fini de faire sa part, il rentre. En fonction de comment ta part va durer, tu peux encore durer là-bas. Donc, c'est comme ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enterré ses compagnons. Après ceci, alors nous rentrons maintenant à la maison. Nous quittons le cimetière et nous rentrons à la maison. Arrivé à la maison, au village ou à la concession, le doigt devient maintenant plus individuel encore, et non-stop, c'est-à-dire que sans arrêt, il n'y aura plus un jour fixé pour le doigt, mais chacun le fera individuellement au moment de ses prières quotidiennes. Il va faire l'effort de rappeler, de prier à Allah pour son mort et les morts des musulmans en général, comme c'est venu dans le verset de Sourate Ibrahim. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al hisab. Si tu dis comme ça, tu as prié pour ta part, oh Allah, pardonne-moi, ainsi que mes deux parents, ainsi que là, comme il est, le reste des musulmans jusqu'au jour dernier. Et ça, c'est le devoir d'un musulman envers les autres musulmans, commençant par lui-même et son parent.
Mais donc, là, vous dites qu'il n'y a plus d'invocation, mais on a tendance à voir qu'on se réunit peut-être après 3 jours, 7 jours,
oui,
un an et ainsi de suite.
Oui, Ousmane, c'est ça qu'il faut faire comprendre à la communauté musulmane, que au lieu de fabriquer d'autres manières contraires à la manière du prophète, il serait mieux de rester dans ce que le prophète a laissé. Ah, ici, il n'y a pas de 3 jours, il n'y a pas un deuil de 3 jours, ni de 7 jours, ni de 40 jours. Le deuil, c'est qu'après l'enterrement, chacun peut maintenant aller chez lui. Le temps pour la famille éprouvée de méditer dans ce qui les a arrivés. Et vous avez pour rôle, vous voisins, proches, famille, de les assister plus tôt. C'est-à-dire que de temps en temps, faire des repas pour amener, les aider à manger et amener les enfants à les distraire et que le malheur qui les a frappés ne les préoccupe pas trop. Et vous vous rappelez du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque Jaafar fut décédé, il dit « Isna'u ta'aman li ahli Jaafar » Faqad ataahum ma yushghiluhum, faites de la nourriture pour la famille de Jaafar car ils ont été frappés par un événement qui les préoccupe. Ça veut dire que le décès d'un proche préoccupe. Alors, venir encore s'entasser chez le défunt, la personne, la famille éprouvée, c'est porter sur cette famille éprouvée une charge. C'est ça qui est le paradoxe. Une charge. Vous devenez, vous voisins, vous proches famille, une charge pour la famille éprouvée au point où ils se trouvent obligés de vous servir de la nourriture et ils vont voir ça où? Or, si on travaille avec le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on comprend donc qu'une famille éprouvée n'a pas à servir les gens. Et qu'une personne chagrinée a besoin de une personne qui va plutôt l'aider.
Non.
Donc, c'était dans à ce niveau-ci, nous disons donc que l'hypothèse d'une éventuelle cérémonie où on doit servir les gens, s'épanouir, parfois même se divertir, et le lieu de deuil devient parfois un moment d'exhibition, les gens viennent là-bas, ça devient un moment de rencontre, de retrouvailles, des X et des Y, on parle des autres, on parle parfois de business, de politique, alors que nous sommes dans le deuil, et nous sommes à un ou deux jours de l'enterrement de quelqu'un. Donc, ici, nous appelons les musulmans à la prise de conscience, et que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wajib al-ittiba, c'est qu'on doit suivre obligatoirement. Et quiconque ne suit pas, alors, il faut donc qu'on essaie de comprendre le verset. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Mais ça veut dire quoi ce verset? Quiconque a obéi à Allah et à son messager a triomphé, d'une grande triomphe. Vous voyez? Tout comme Allah dit, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et quiconque a désobéi à Allah et à son messager, ce serait profondément égaré. Mais il y a un problème d'obéissance et de désobéissance. Donc, où le deuil est un rite qui n'a rien à voir avec l'islam, on fait comme on veut dans nos coutumes, où ça a un trait à l'islam, et c'est l'islam qui recommande comment on doit faire, où on fait, on est musulman. Donc, il est inadmissible, ou bien incompréhensible, qu'une famille éprouvée se rédige en une famille qui organise un festin à l'occasion du décès de quelqu'un, d'un membre de la famille. Les enfants sont préoccupés par le service, voit qui va manger, et les amis viennent comme les invités, alors on vient de Douala, de Yaoundé et partout, parce qu'on va au deuil de père de notre ami, et on espère arriver à être servi. Là, on va plutôt faire la tazia. Et la tazia, c'est aller présenter les condoléances à quelqu'un éprouvé. Je crois que vous, on se comprend, monsieur.
Tout à fait.
Cette histoire de 4e jour, il n'y a pas un hadith qui dit que le deuil, c'est 3 jours. Le deuil, c'est le jour de l'enterrement, la janaza et l'enterrement. Et après ceci, tu dois rentrer chez toi. Et de temps en temps, tu viens rendre visite pour essayer de consoler. Celui-là peut consoler même au téléphone. L'autre peut même venir s'il pense qu'il peut venir. La famille éprouvée autour d'elle se retrouve et se console entre elles. Et les proches familles comme les cousins, les oncles, les tantes, ils ont pour rôle de venir apaiser la situation et réconforter la famille éprouvée et puis faire à manger de temps en temps. Vous voyez,
la tazia a une période, ou bien on peut faire la tazia à n'importe quel moment.
La tazia n'a pas une période précise. La tazia peut se faire le matin, comme à midi, comme le soir, comme la nuit, pourvu que ce ne soit pas trop tard. La tazia peut être le premier jour du deuil, le jour qui suit, mais le meilleur tazia, c'est la période où le deuil est encore vient de s'avoir lieu. C'est-à-dire le premier jour, ça peut être au téléphone, ça peut être où je ne suis pas très loin de la place, je viens. Et ce qui est à remarquer et à exhorter encore, c'est que le musulman, quand il entend que son frère musulman est décédé, c'est qu'il aille pour assister à la janaza. Et j'allais oublier par là cette mention où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque a assisté à la janaza, la prière mortuaire, et a assisté à l'enterrement, gagne là en récompense 2 kirats. Les sahabes ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle est cette valeur de kirar? La kirar, là, c'est comme quoi? Il dit, comme la montagne de Oho 2 fois. Alors, si j'entends qu'un frère est décédé, une soeur est décédée, je dois courir pour aller assister à la janaza, prier pour lui parce que c'est un devoir et gagner en récompense. Vous voyez donc?
Non.
Donc, je pense que sur cet aspect, la tazia, comme tu disais, comme tu demandais, est meilleure quand le deuil vient d'avoir lieu. Mais plus ça perd, plus ça prend du temps, plus c'est moins meilleur.
Et au téléphone, la tazia peut être faite. On n'a pas toujours besoin de venir
sur place.
Hein? On peut encore couvrir, payer de l'argent, 10 000 francs de transport pour aller trouver une janaza. Mais pour la tazia, on peut appeler au téléphone. Et si on trouve que c'est toujours nécessaire, parce qu'il y a peut-être des amanates, des wasaya qu'on avait à remettre à la famille, alors on peut toujours voyager pour la cause. Et non.
Nous avons un point de transition et nous revenons dans un instant.
Islam et nous, c'est tous les vendredis, entre 21h30 et 22h, sur les ondes de la 91.3 station régionale CRTV Littoral.
De retour dans ce studio, nous sommes toujours sur la 91.3 avec le cheikh Saleh Idi. Et le sujet de ce soir, c'est sur la janaïza, sur le deuil. Le cheikh, vous étiez en train de nous expliquer comment la tazia devait se faire. Maintenant, je voudrais savoir, vous pouvez nous dire que la famille en deuil ne doit pas préparer pour les gens. Si les gens viennent et puis qu'on leur a donné à manger, comment doit-il se comporter? Est-ce que c'est permis pour eux?
En réalité, j'insiste sur ce point et je reviens toujours en disant la famille André n'a pas à préparer. Et qu'est-ce qui les anime même déjà à préparer?
C'est la coutume.
Oui, la coutume, mais il faudrait qu'on comprenne que l'islam aussi c'est une coutume. L'islam c'est déjà aussi une coutume. Il faut qu'on adopte la meilleure des coutumes, la coutume de l'islam, la coutume laissée par le prophète. Si nous disons que le prophète Mohammed est notre messager, si nous témoignons que ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ça veut dire ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajara, obéir en lui dans ce qu'il a ordonné, s'abstenir dans ce qu'il a interdit et éviter tout ce dont il a condamné et blâmé. Alors, la famille éprouvée n'a pas à préparer. Mais s'il arrive donc, arriver là-bas, le coutume c'est déjà ça, et qu'on te serve à manger. Mais il y a quoi? Est-ce qu'il y a un complexe à dire non, je suis plein? Non, il y a pas. Est-ce qu'il y a un complexe à dire à la personne éprouvée que mais ne t'en fais pas pour moi? Ne t'en fais pas pour moi, je suis là pour te consoler plutôt. Amener l'homme aussi à comprendre que, mais au lieu que il se peine, il se tracasse à te faire à manger, que non, tu es déjà tranquille et que tu es déjà rassasié. Là, tu es en train de le soulager moralement.
On ne dira pas que la personne qui a mangé a eu à avoir fait des péchés, a des péchés pour avoir mangé.
Mais à partir du moment où il constate que c'est devenu une contrainte qu'on le serve et qu'on lui fasse à manger, ça peut devenir un péché. Parce que là, il est en train plutôt de surcharger la personne éprouvée. Mais bon, supposons que peut-être il ne connaît pas ou bien il n'est pas trop instruit et cultivé dans cela, il a pris à manger. Voilà, on ne peut pas dire qu'il est en train de pêcher, mais nous disons que ça c'est dangereux parce que à un certain moment ça devient une pression et une contrainte qu'on met sur la famille éprouvée. Et si c'est déjà une pression et une contrainte morale qu'on met sur la famille éprouvée, ça devient le péché.
Mais si c'est par exemple un membre de la famille qui vient faire taïsia et puis qu'on lui sert maintenant à manger, c'est un membre de la famille, peut-être un cousin qui est passé par là, est-ce qu'il va aussi entrer dans le même sens, il sera même considéré comme celui qui est venu d'ailleurs, qui n'est pas le membre de la famille?
Un membre de la famille, ça veut dire qu'il est non loin de la maison. Il laisse le chez lui pour venir. Attends, monsieur Ousmane, je veux que vous compreniez une chose.
C'est
que dans la plupart des lieux de deuil, les familles, les voisins, les proches familles ne se comportent pas comme des personnes qui viennent faire la tazia, mais ils se comportent comme des fêtards, comme des touristes. Hein, excusez-moi le terme, hein, parce qu'on se comprend après un peu. Un touriste, ça veut dire il poursuit là où on mange.
Tout à fait.
Le matin, il sort, il vient s'asseoir au lieu de deuil, il croise les bras, il passe 2 heures du temps, 3 heures du temps, il attend un bout de pain, une tasse de café. Mais il pense que ça vient d'où? À midi, il laisse chez lui, il vient s'asseoir. Et le pire encore le soir, où tu vois les gens sortent des maisons avec les lampes tempêtes ou bien avec des torches, ayant aligné les enfants derrière lui. Ils vont tous s'asseoir au lieu de deuil. Ils deviennent une charge pour la famille éprouvée. L'épouse qui a perdu son mari, les enfants qui ont perdu leur père, ou bien un homme qui a perdu sa femme. Mais il va préparer comment vous pouvez manger. On pense que ces gens-là devaient plutôt venir avec de la nourriture pour offrir, mais alors qu'ils ont plutôt aligné les enfants et les épouses pour venir s'asseoir au lieu de deux, attendant qu'on les serve. Et plus grave encore, et qui fait mais parfois même j'ai dit, couler les larmes, c'est qu'à un certain moment, il se plaint qu'on ne l'a pas servi. Et qu'on a servi les gens là-bas par tribalisme, ou bien par clan, par discrimination. Ou bien encore, on l'a mal servi.
Il dit le morceau de viande n'était pas bon et le repas n'était pas très bon. On l'a servi avec un couscous à moitié ou bien un riz qui n'était pas suffisamment, qui n'était pas plein. Il fallait qu'on bombe un plat et qu'on mette un bon morceau de viande. Alors imaginez-vous quelqu'un qui laisse. Est-ce que ça c'est un membre de la famille? Il quitte, il laisse le chez lui au lieu de venir avec de la nourriture pour donner à la veuve. Il vient s'asseoir chez la veuve pour faire manger. Mais s'il est membre de la famille, il devait venir avec quelque chose. Parfois un petit bout de pain chargé de coupe aux enfants. La maman, la dame, de me poser au moins la question à la dame, qu'est-ce que tu as mangé depuis le matin? Hein? Yeah. Bon, donc je pense que si quelqu'un est venu peut-être d'ailleurs, hein, je comprends un peu ça. Si quelqu'un est venu d'ailleurs, à des kilomètres, ayant fait un voyage, il n'a pas où dormir, et il n'a pas où manger, mais c'est à cette personne que tu dis qu'il est proche famille, membre de la famille, de récupérer son oncle qui vient de loin, sa tante qui vient de loin, et l'amener plutôt chez lui, à 20 mètres ou 100 mètres de la maison du défunt, pour l'accueillir là-bas et lui faire dormir là-bas et lui faire manger là-bas, de peur qu'il vienne surcharger la famille de son frère décédé. Vous voyez un peu comment on se comporte.
Tout à fait. Je
vais encore être plus clair. C'est-à-dire, si je décède, mon grand frère n'a pas à venir rester chez moi pour manger. Et si je te parle de mon grand frère, ça veut dire que mon cousin ne viendra pas rester là-bas. Mais alors que mon grand frère peut plutôt accueillir certains de mes invités qui viennent de loin, qui n'ont même pas où dormir, c'est lui qui les récupère, les amène à distance pour qu'ils dorment là-bas, de peur qu'ils deviennent une charge pour ma femme et mes enfants, pour le parent. Donc il peut les accueillir à distance, il les sert à manger là-bas et il présente la tazia. Et après, ils s'en vont. Ou bien, après la tazia, ils peuvent aller donc dormir ailleurs, en attendant que le matin arrive pour pas partir. Il faut décanter le lieu de deuil. Il faut décanter le lieu de deuil de peur qu'on se charge. Non.
Pour sortir, nous avons tendance à voir aussi qu'on fait les sadakat pour le mort. C'est permis?
Le sadakat pour le mort, en réalité, c'est que la manière de faire qu'on fait n'est pas ça. Le sadakat pour le mort, les enfants peuvent faire de la sadakat pour le mort. C'est de l'aumône en mémoire du mort. Je peux donner à une mosquée, à une personne pauvre, à une personne qui est dans le besoin, quelque chose qui peut le satisfaire en espérant que la récompense de cela soit inscrite à mon père qui est décédé ou à ma mère qui est décédée. C'est comme ça qu'on le fait. Ça n'a pas besoin d'un tapage. Ça n'a pas besoin qu'on rassemble les gens et on les fasse à manger des boules de couscous en sadakat. Non, au lieu de faire tout ceci, et ça devient du ria. On peut plutôt faire, si tu as de l'argent ou bien de la viande, tu peux cibler un membre de la famille, un proche, ami et autre. Tu lui fais ce cadeau. Un sac de riz, demi-sac de riz, un bidon d'huile en sadaka. Si tu as 1 million à dépenser, par exemple, parce que tu veux toujours démontrer que tu aimes ton père, toi, mais au lieu de faire manger les gens des bouts de couscous en sadaka avec tout ce que ça comporte comme bida et ria, mais prends cet argent, tu peux faire un puits d'eau. Et le puits d'eau, tu n'as pas besoin de raconter à l'humanité que c'est pour ton sadaka en mémoire de ton père. Mais tu peux plutôt le faire et dans ton intention, comme c'est pour ton père et ta mère, Allah l'a inscrit. Donc évitez que cela soit le ria. Et la meilleure des sadakas est non seulement ce qu'on aime, mais qu'elle soit discrète. Comme c'est venu dans le hadith de cette personne qui se rend sous l'ombrage d'Allah, le jour où il y aura point d'ombrage sous l'ombrage d'Allah. Hein? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Cet homme qui donne la sadaqa jusqu'à ce que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est-à-dire, ça veut dire que la personne la plus proche de lui ne sait même pas ce qu'il a donné. Mais à partir du moment où on sort avec, on va tuer les bœufs et on va faire manger une communauté de 300 personnes et puis le couscous, le riz, tout ça, les jus, c'est devenu une fête. Et les gens vont aller raconter, et c'est du venez voir, et c'est ça que les gens aiment, le ria. Akhwafu ma akhafu alaykum, ashirku al-asngar. Kalu ashirku al-asngar ya Rasulallah, kala al-ria. La chose que je redoute et je crains plus pour vous maintenant, c'est quoi? C'est la ria, l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ceci, et les sahabas ont posé la question, et qu'est-ce que c'est que l'ostentation exactement ya Rasulallah? Le petit chiffre est quoi? Il dit ria, ostentation, faire pour que les gens voient. Faire pour que les gens apprécient, qu'Allah nous en préserve.
Ah, mais il est matu vu, comme on dit, on attend.
Oui, il est matu vu à la cérémonie. Ou bien quelqu'un qui passe et dit j'ai vu tout le monde, mais je n'ai pas vu tel. Ou bien on a vu comment il a fait pour son père et sa mère. Il a été vraiment généreux. Il a fait manger tout le village. Adala Yanfa. Ça n'aide pas.
Que dit de lire le Coran pour le mort?
Tout ça, lire le Coran, c'est une bida parce que le prophète n'a pas fait avec ses compagnons. Il n'a jamais lu le Coran sur Khadija. Il n'a jamais lu le Coran sur ses enfants qui sont décédés. Les sahabas n'ont même pas lu le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais où est-ce qu'ils ont vu tout ça? c'est des bidas, c'est des inventions, et nous sommes appelés à écouter et à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, le prophète dit, le hadith de Aïcha rapporté au Bukhari Muslim, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque innove dans notre affaire, si ce qui n'existait pas avant, est rejeté. Rejeté quoi? L'acte innové là est rejeté, il n'a pas de récompense. Et comme si ça ne suffisait pas, il est poursuivi pour délit. Est-ce que tu sais pourquoi la bida est condamnable en islam?
Non.
La bida est condamnable en islam parce que celui qui fait la bida, c'est une manière de critiquer Allah. Que Allah aurait dû plutôt faire ceci. Et j'ai trouvé une formule et une manière de faire, si Allah avait plutôt instauré ceci, ce serait mieux. Est-ce que Allah est au niveau où on lui propose des choses? Allah dit, dinukum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allez-vous fabriquer une religion pour venir, votre religion pour venir la montrer et l'imposer à Allah? Allah est parfaitement connaisseur et vous n'êtes pas connaisseur.
Jazakallah khayran pour toutes ces explications, Cheikh. Le temps imparti à notre émission est arrivé à son terme. Inch'Allah, on espère vous revoir dans notre studio.
Inch'Allah, Inch'Allah, qu'Allah fasse qu'on se retrouve très prochainement. Et je remercie le staff qui a dirigé l'émission et tous les auditeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit tous au paradis.
Amin. À la technique, Ibn Ameni, Sylvain Gué, Manyama, les techniciens de l'Obesu ainsi que d'Aqua, coordination, Gina Bader, supervision, Naruba Mukake, supervision générale, Jamaïka, à ce micro, votre humble serviteur, Ousmane Souleymanou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من
Islam et nous, une émission religieuse qui illumine les consciences et diffuse la voix de l'islam. Islam et nous, c'est tous les vendredis, entre 21h30 et 22h, sur les antennes de la Sierra TV Littorale. Islam et nous, une présentation d'Ousmane Souleymane, tous les vendredis, à partir de 21h30, sur les ondes de la 91.3 Sierra TV Littorale.